France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'œuvres traduites, d'islamologie au Moyen-Âge, si le mot n'est pas tout à fait inapproprié. On parle aussi d'approches eschatologiques et apocalyptiques en islam. Et tous ces sujets seront abordés avec Abdelrazak Haloumi. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir nous parler de ce sujet. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale à Poitiers et vous êtes l'auteur, entre autres, vous qui êtes d'une grande érudition, un des préfaciers de votre ouvrage parle d'une érudition de haute volée. Vous êtes l'introducteur et l'auteur du livre de l'échelle Mahomet, c'est comme ça que ça s'appelle, un manuel d'islamologie au XIIIe siècle, disons-le tout de suite, il ne s'agit pas de commettre un parachronisme où on parle d'islamologie médiévale alors que la discipline elle-même, à ma connaissance, mais vous pourrez le corriger, remonte au tournant du siècle écoulé, notamment avec le professeur Alfred Le Châtelier, alors professeur au Collège de France. On parlait de l'orientalisme islamisant, maintenant on parle d'islamologie, qui est le fait de tenir un discours rationnel, objectif, académique, scientifique, sur le fait islamique. Mais vous, à travers ce livre, dont vous allez nous raconter l'histoire, son épopée, vous parlez, et à juste raison, comme si c'était un traité et un manuel d'islamologie au XIIIe siècle. De quoi s'agit-il au juste ?
Merci beaucoup de me permettre de parler. Avant de commencer, je souhaite rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés ces dernières semaines. C'est Martin Aurel, le directeur de la collection où ce livre est publié et qui a été mon co-directeur de thèse. Alors, ce livre de l'échelle Mahomet a été traduit en français en 1264 par le biais de Bonaventure de Sienne à la cour d'Alphonse X le Sage au moment de la reconquête espagnole. Alors, ce livre raconte le voyage céleste de Mahomet à travers les cieux, puisqu'il a emprunté l'échelle, d'où le titre, et il rapporte tout ce que le prophète de l'islam a vécu, a vu et a senti.
La traduction par Bonaventure de Sienne a eu lieu en 1264. Curieusement ou heureusement, selon les deux adverbes, elle tranche avec ce qui se faisait avant, ne serait-ce que 6 ans plus tôt avec le roman de Mahon, comme on aurait pu dire, d'Alexandre Dupont, qui était très polémique, enfin, ce qui était logique et normal dans le contexte du XIIIe siècle. En revanche, celui-ci paraît un peu moins polémique et en tout cas moins anti-hagiographique.
Tout à fait. Alors, contrairement au roman de Mahon, le livre de l'échelle Mahomet repose sur des sources fiables. Ce n'est pas une biographie fictive du prophète de l'islam.
À visée polémique.
Même si on le sent de temps en temps, j'allais dire, ce texte aurait pu être accepté par le musulman le plus traditionnel au XIIIe siècle, puisque on suit les différentes étapes. Le prophète de l'islam qui voyage sur Bourak, il a été invité par Gabriel.
Bourak étant cet animal composite à visage humain, un cheval ailé.
Un cheval ailé, voilà.
Rappelant un peu le Pégase.
Voilà, c'est le Pégase qui a permis au prophète de l'islam de faire le voyage entre les deux pôles importants. Alors, ce que la tradition accepte comme étant la mosquée proche,
L'oratoire consacré proche, voilà. Et l'oratoire éloigné.
Et l'oratoire qui était assimilé à Jérusalem. Et à partir de Jérusalem, une échelle est dressée. Alors, selon les versions, soit elle part du parvis du temple, soit elle descend du premier ciel et qui permet à Mahomet de faire son ascension céleste et à observer cieux après cieux jusqu'à atteindre la huitième sphère qui est la demeure divine.
Oui, alors tout à l'heure, si vous voulez bien, vous nous parlerez de cette topographie céleste et spirituelle et comment elle a peuplé l'imaginaire et notamment la dévotion populaire des musulmans. Restant autour de l'ouvrage lui-même, cette traduction de Bonaventure de Sienne n'est pas directement de l'arabe.
Non. Il faut rappeler que on est 12e, 13e siècle en Europe, aussi bien à Palerme chez Roger II, ou chez Alphonse X le Sage, plutôt le savant,
Issabio, la traduction exacte, c'est normalement le savant et pas le sage.
Voilà. Mais en français, on accepte comme étant le sage. Il y a eu des transferts culturels, un mouvement de traduction de textes arabes dans différents domaines, les sciences, la philosophie et quelques ouvrages littéraires. Et cet ouvrage, le Livre de l'Échelle, est quasiment original dans la somme des choses traduites, puisque la visée est au début considérée comme étant apologétique et anti-islam. Alors, Bonaventure de Sienne a bénéficié de plusieurs voix. Abraham el-Fakir, donc, qui est juif et physicien en ancien français, donc juif et médecin. A traduit avec une équipe de traducteurs de l'arabe, de différentes sources, vers le romance espagnol. Et à partir de là, le romance, on l'a traduit en ancien français, en latin d'abord et en ancien français par la suite. Et l'originalité, c'est que la matrice en romance et la matrice en arabe n'existent plus. C'est pour ça qu'on parle d'un manuscrit andalou perdu et qui permet de s'interroger, de poser différents scénarios pour dire quelle est la source, où est-ce qu'il y a plusieurs sources à ce texte.
Peut-être deux mots encore sur Abraham el-Fakir qui traduit de l'arabe en romance castillan et puis via le latin ou directement aussi en français ancien. Pourquoi le français ancien à la cour du roi le savant ou le sage Alphonse X, c'est parce que le français ancien est une sorte de koiné en Europe occidentale à ce moment-là. C'est mutatis mutandis, un peu l'anglais de l'époque.
Tout à fait. Alors, Bonaventure de Sienne, ça précède Dante, et que c'est Dante qui est l'inventeur de l'italien, on va dire, que nous connaissons aujourd'hui. Et le français, c'était la langue de la culture. Et on a d'autres exemples de textes rédigés en français ancien. Marco Polo, par exemple, le Livre des Merveilles a été écrit. Et puis, le roi de France était plus puissant politiquement que... Et à partir du français, il y avait cette possibilité de diffuser vers le royaume de France lui-même, mais en même temps, le royaume d'Angleterre, avec les possessions des descendants d'Aliénor d'Aquitaine. En tant que poitevin que je suis, je ne pouvais pas ne pas faire ce petit clin d'œil.
Bien, Abdelazak Halloumi, avant de voir le contenu de l'ouvrage lui-même, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est, bien que peut-être sa vocation première soit de défendre la foi chrétienne, ce qui est tout à fait normal et naturel, et cela se conçoit pour le XIIIe siècle, dites que c'est un ouvrage plutôt, il paraît, sinon conforme à la tradition islamique elle-même, en tout cas, il est amène, si le mot n'est pas trop fort dans ma bouche, pour la figure du prophète de l'islam, dont on voudrait, sinon vanter, au moins présenter sa sagesse.
Ce texte tranche avec d'autres œuvres médiévales, hein, que ce soit les chansons de geste ou d'autres textes. On a parlé tout à l'heure du roman de Mahon d'Alexandre Dupont. Mais ce texte s'inscrit dans le sillage de ce qui a été lancé au siècle précédent avec Pierre le Vénérable, avec les tentatives de traduction du Coran. Pierre le Vénérable et l'équipe qui l'a formé. Marc de Tolède, un peu
là,
plus tard.
Là, on est en 1144,
voilà.
À peu près.
Début du 13e, avec Marc de Tolède, on est en Espagne, on traduit le Coran. Le but, c'est, on a réalisé que les croisades ne pouvaient pas changer les Sarrasins, ben, il fallait mieux les connaître, et on construit une autre vision du prophète de l'islam. C'est ce que John Tolan a montré dans son Mahomet l'Européen. Et donc, il y a une construction plus objective, plus proche. Alors, ce livre de l'échelle Mahomet, ben les Espagnols de l'époque et les chrétiens de l'époque l'avaient considéré comme le second livre après le Coran. Donc, pour eux, c'est le réservoir dans lequel ils allaient puiser toutes les connaissances possibles pour mieux appréhender l'autre, le connaître et peut-être mieux le combattre.
Puis-je dire que c'est quelque chose qui les fascinait parce que quand même, ça frappe l'imaginaire, cette fameuse chevauchée nocturne et cette ascension céleste. Voilà un homme qui va de la Mecque à Jérusalem en acceptant ce que dit la tradition islamique et qui entreprend une ascension céleste. Le voyage horizontal ou terrestre se fait très vite. Nous avions eu l'occasion de le dire lors d'une émission précédente. Il enfourche un animal fabuleux dont le pas atteint la limite du regard. Donc ça va très vite.
Très vite.
Un physicien de nos jours aurait dit qu'il allait à la vitesse de la lumière. Mais restant dans le récit fabuleux, et après, qu'en est-il de cette affaire des huit catégories, huit sphères, huit cieux par la suite? Donc d'abord, cela a frappé l'imaginaire des chrétiens, espagnols d'abord et puis européens après, et puis la description elle-même, ce que j'ai appelé tout à l'heure une topographie céleste.
Alors oui, ça a frappé l'imaginaire, mais ça a permis également de montrer que Mahomet n'était pas un affabulateur, puisque dans les traditions chrétienne, dans les traditions juives également, dans tous les pseudépigraphes de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a des voyages célestes. Alors, il y a le plus connu à la fin de l'Antiquité, c'est l'Apocalypse de Paul. Alors, sauf que Paul a été ravi, mais il s'arrête au troisième ciel. Il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup compté, ben c'est un prophète, donc qui a lui aussi été enlevé. Corps
ah, ravi.
Et, ah, ravi, oui. corps et âme. Et il a fait ce voyage. Moïse aurait fait un voyage, etc., etc. Donc, pour les chrétiens de l'époque, le voyage n'était pas vraiment une invention. C'était possible.
Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire.
D'extraordinaire, puisqu'il y a un fond commun, sémitique, mais même en même temps, juifs et chrétiens. Et les trois traditions monothéistes pouvaient se retrouver. Hein, le Enoch biblique, c'est le Idris chez les musulmans, ou le Idris coranique, on va dire le Enoch Idris, est l'un de ces exemples.
Déjà dans la tradition islamique, il y a tout un débat et ça couvre une gamme qui va du simple voyage mystique jusqu'à un véritable voyage incorporé, où se situe, selon la légende, ou en tout cas selon le merveilleux qui accompagne ce voyage, en tout cas pour le XIIIe siècle, qu'est-ce qui a été retenu?
Dans la sphère islamique, d'après les recherches que j'ai pu mener, il y avait deux grandes lectures. Il y a certains qui disaient, notamment Aïcha, l'épouse du prophète, qui disait que son mari n'a jamais quitté son lit, hein, son lit. Et de l'autre côté, il y a d'autres, Ibn Abbas, par exemple, qui dit, donc le cousin du prophète, qui disait que le voyage a été fait corps et âme, et que le prophète a gravi physiquement ces différentes étapes, ces différentes sphères. Les traducteurs du livre de l'échelle, à mon avis, avaient tranché en faveur de la vision de Ibn Abbas, mais qui dit que le voyage a été corporel et pas un songe. Ce n'est pas, alors, il n'est pas à l'image d'un voyage qu'auraient fait les mystiques qui avaient voyagé de manière plutôt spirituelle, ou leur essence, alors que leur enveloppe terrestre, corporelle, serait restée sur Terre.
Ce n'est pas tout à fait dans l'ouvrage, et pardonnez-moi de faire cette digression. On rapporte que le prophète de l'islam était un peu adossé à la Kaaba après cet épisode, et un de ses farouches ennemis, son oncle, lui dit « Alors, ton Dieu ne te parle plus ?» puisqu'il y avait une interruption de la révélation, ce qui était considéré comme une déréliction totale. Et là, le prophète aurait répondu « Oui, non seulement il me parle, mais il m'a fait voir ce qu'aucun œil n'a vu, etc. » Et là, Abu Jahl s'exclame et dit « Je vous ai dit que c'était un fabulateur. » Parce que pour l'époque, déjà, et pour l'entourage du prophète incrédule, on ne pouvait pas accepter l'idée qu'un tel voyage ait pu se faire de nuit, en si peu de temps. Omohani, sa cousine, dit qu'il a donné un coup de pied à la jarre en partant précipitamment. L'eau n'avait pas fini de couler de la jarre alors qu'il était déjà de retour et que sa couche était encore chaude.
Oui, parce que nous ne sommes pas dans le récit, alors qu'on retrouve dans le livre de l'échelle Mahomet, et que le livre de l'échelle Mahomet retrouve cette tradition, c'est que nous ne sommes pas dans un temps terrestre. Nous sommes dans un temps eschatologique, et que nos amis chrétiens connaissent avec la vision eschatologique, la Maestas Domini. C'est à la fois le Christ, c'est le Jésus, et en même temps le Christ de la fin des temps. Et il n'y a pas de séparation. Et le miracle, alors là on peut parler dans la tradition musulmane de miracle, c'est ce voyage nocturne, puisque le livre de l'échelle fait référence à cela, hein, dans le texte où on dit « loué soit celui qui a fait voyager son serf ». Alors, de la Mahomerie de la Mecque à Jérusalem, hein, c'est le verset 17.1 du Coran, du texte coranique, et que les traducteurs ont légèrement adapté, surtout la fin qui est intéressante. Alors, on ne finit pas par Dieu, l'audiant et le sachant. Je traduis à peu près le texte coranique. Mais eux, ils disent, il a montré à Mahomet ce qu'il n'a jamais montré ni aux anciens, ni à ceux qui viendront après. Donc, l'unicité. Et donc, c'est quelque part le miracle qui est prouvé ici. Et que cette histoire de voyage, j'allais dire, elle n'est pas choquante pour des gens pétris par le texte biblique, que ce soit la partie Ancien ou Nouveau Testament, puisqu'il y a des exemples à la fois dans les textes canoniques, mais également dans les apocryphes.
Le fameux verset 1 de la sourate 17, elle-même s'appelant la sourate de la chevauchée nocturne, dit en substance « Gloire à celui qui fit transporter son serviteur adorateur ou son serf de nuit de la mosquée proche ou consacrée à la mosquée éloignée ou à l'oratoire éloigné, afin de lui montrer certains de nos signes dont on a béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes, et Dieu est omniscient ou sachant ou savant ou audient.
Audient, ouais.
Mais à la présentation elliptique du Coran, puisque le Coran ne parle que de ça, il y a une prolifération littéraire extraordinaire.
Tout à fait. Le texte, alors ce verset 1, a ouvert une possibilité pour les conteurs, de combler les interstices et les vides.
Ils ont interpolé.
Interpolé, imaginé. Alors, Il y a plusieurs thèses. Il y a certains qui disent, notamment des philologues allemands, qui disaient en fait l'oratoire, c'est la Mecque, et le plus éloigné, c'est juste à quelques dizaines de kilomètres. Alors, on sait que la thèse de Jérusalem va se construire plutôt à l'époque omeyyade, avec Abdelmalek ibn Marwan, un calife omeyyade,
et où là, 685, voilà, 705.
Et on va construire également le fameux dôme du rocher, et on va toute une légende qui va se construire. Alors ce verset 1 de la sourate 17 va autoriser toutes les possibilités et les récits. Alors il y a des hadiths. Il y a des hadiths, c'est-à-dire des dits du prophète, mais également dans les biographies du prophète. Alors, les plus connues, c'est celle de Ibn Ishaq et Ibn Hisham, plus les livres des tabaqat, c'est-à-dire les couches ou les biographies,
Les catégories ou les classes.
Les classes, etc., reviennent sur ces éléments. Et puis, commentaires du Coran. Les commentaires du Coran, alors notamment chez l'historiographe le plus connu de l'époque abbasside, c'est Tabari, qui rapporte lors de son commentaire de cette sourate 17, verset 1, tous les récits canoniques qu'il a pu entendre ou rapporter, mais en même temps les récits plus apocryphes, notamment un récit rapporté par Abu Huraira qui est extrêmement long et dans lequel nous trouvons la matrice de cette histoire qui est le voyage nocturne et l'ascension céleste.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'un ouvrage, le livre de l'échelle Mahomet, introduit, réactualisé, traduit ou repris en tout cas par le chercheur Abdelrazak Haloumi. Et pour cette deuxième partie, restons encore peut-être sur ce second Coran tel qu'il est présenté au XIIIe siècle dans la traduction de Bonaventure de Sienne. C'est une sorte d'iconographie verbale, si je puis dire, du Coran, puisque ça illustre ce qui n'est pas dit dans le Coran, et notamment pour ce voyage fabuleux, merveilleux, extraordinaire, mais qui ne l'était pas pour la psyché croyante, quelle qu'elle soit, notamment du monothéisme judéo-islamo-chrétien au XIIIe siècle.
Oui, c'est une iconographie, c'est-à-dire avec le retour des figures de style, les métaphores, les comparaisons, toute la symbolique que l'on peut trouver. Sachant que si on fait un parallèle avec ce qui se passe dans la partie extrême orientale du monde islamique de l'époque, au XIVe et XVe siècle, on va peindre on va mettre en image, c'est les Mi'raj Name qu'on va retrouver dans la sphère turco-persane. Si on revient au livre de l'échelle, il donne à voir des descriptions que le texte coranique n'a pas évoqué, ou il a évoqué de manière elliptique. Ce sont les sept cieux, l'enfer, c'est également les joies du paradis, le jugement dernier, etc., etc. Il y a tous ces éléments-là que l'on va retrouver. Et le mérite de nos traducteurs Abraham et Bonaventure de Sienne, c'est qu'ils ont fait une synthèse de leur lecture et que l'on peut retrouver dans les sources. Alors, je ne sais pas si on peut dire canonique ou officiel, mais disons dans les sources scripturaire, livresque, entre guillemets, de grands théologiens et de grands commentateurs du Coran, et également de traditionnistes, que ce soit Bukhari, Muslim, et toutes les recensions des dits du prophète dans la tradition sunnite. Mais je me suis penché également dans la tradition chiite, Al-Kafi, c'est-à-dire le suffisant, et c'est la somme. Et on retrouve tous ces éléments-là, y compris dans la tradition chiite.
Et l'ouvrage, le livre de l'échelle Mahomet, devient à la fois un traité d'angélologie, d'une cosmologie bien particulière, et surtout un livre de portée eschatologique et apocalyptique, de cette religion qui, du coup, n'est plus une hérésie chrétienne. Elle apparaît comme une religion autre, nouvelle, mais qui a le même terreau et les mêmes fondements.
Tout à fait. Et tout ce travail-là d'explicitation, d'explication, ramène l'islam et le rattache à la chaîne du monothéisme ou des monothéismes. L'angélologie musulmane, elle n'est pas très éloignée de celle que nous lisons dans l'Apocalypse de Jean, dans le Nouveau Testament, ou dans les différentes descriptions que nous avons dans l'Ancien Testament. Les apocryphes reprennent des choses. Ce sont des choses que nous retrouvons aussi chez les cosmographes, que ce soit Qissai, par exemple, et qui a, au XIIIe siècle, avec des descriptions des créatures qui peuplent les cieux, les formes des anges, alors ceux qui ont une tête humaine, ceux qui ont des têtes d'oiseaux, ceux qui ont des têtes de vaches, etc. etc. Et dans certains manuscrits médiévaux du monde arabo-musulman, on va retrouver des peintures. Ces mêmes peintures que nous retrouvons évoquées par les mots dans le livre de l'échelle Mahomet.
Oui, lorsque vous parliez de cette angélologie, on trouve, à quelques nuances près, les séraphins, les chérubins, les noms, bien sûr, le plus connu étant Gabriel et même Michel, et d'autres. Donc, ça fait une forme de cousinage, en quelque sorte, ou sinon de... d'une même, en tout cas, une même famille de pensée en ce qui concerne ces descriptions.
Oui, parce qu'on va retrouver une angélologie avec ces différentes, avec les archanges. Là, on va retrouver les quatre archanges principaux. Alors, Gabriel qui joue un rôle important, mais il y a aussi Michaël. On va retrouver Azraïl, l'ange de la mort. On va retrouver Raphaël et Séraphil, celui qui va souffler dans le corps et annoncer à la fois la fin et le recommencement, le réveil. Et puis après, il y a des anges intermédiaires qui chacun va siéger dans les différents cieux. On va retrouver aussi les anges qui sont voués, destinés à la prière. On va retrouver ces régiments d'anges que parfois même pas un cheveu ne puisse les séparer. Ce sont des anges les porteurs du trône, qui sont quatre.
Sous-entendu le trône divin.
Oui, le trône divin. Oui. Le trône divin, ils sont quatre. Et il retrouve dans le livre de l'échelle Mahomet des choses communes avec la vision biblique qu'on va retrouver, par exemple, chez Enoch ou dans d'autres apocalypses, notamment celle de Moïse, d'Abraham, etc.
Alors, restons sur un aspect tout aussi curieux et qui n'a cessé de développer et d'être l'objet de cet imaginaire à la fois dévotionnel et populaire, c'est la vision, même chez les mystiques. Il y a un passage coranique qui parle du prophète de l'islam qui s'est tenu à une distance de deux portées d'arc ou moins encore, et ce serait le fameux tapis de la familiarité. On ne peut pas être aussi familier, si je puis dire, avec Dieu. Et là, son regard n'a ni tenu ni dévié, donc une sorte de regard révérencieux, mais pas un regard insolent, si je puis dire. Mais ce n'est pas un regard non plus qui a dévié, au contraire. Il n'a pas soutenu, mais il n'a pas dévié. Que pourriez-vous dire de tout cela et comment ça a été perçu pour l'époque ?
Alors, les traducteurs n'ont pas versé dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans une forme de théologie apophatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dépassé ce que la théologie chrétienne et, par-delà, la théologie musulmane, et ils ont utilisé quasiment intégralement leurs sources. C'est-à-dire que le prophète n'a pas vu Dieu avec ses yeux terrestres, mais il les a vus avec les yeux du cœur. Mais il a senti...
Qui est l'organe de perception par excellence.
Par excellence. Et le livre de l'échelle, Mahomet, revient sur cette évocation, sur cette description. C'est pour cette raison que le livre peut être lu par un musulman le plus, j'allais dire, pieux, et ils n'y trouveraient pas des choses répréhensibles. Et ils ont tranché dans cette dimension. Alors, tout à l'heure, on posait la question, est-ce que le voyage a été corporel ? Oui, il a été corporel, parce que le prophète, et là, les traducteurs le rapportent, ben, il a senti le souffle et la main de Dieu, la parole de Dieu, qui lui donne la connaissance des anciens et des temps. Alors, on va retrouver aussi cette histoire de la lumière mahomédienne qui est sous-jacente.
Le fameux tabernacle ou la niche de la lumière prophétique, la lumière mohammedienne. Bon, tout de même, je ne veux pas jouer les rabat-joie. Il y a deux choses. La première, c'est peut-être que la psyché, encore une fois, ou les consciences croyantes au XIIIe siècle, était encline à recevoir ce type de description, ce qui de nos jours ferait sourire de nombreux croyants même. Et puis la seconde chose, c'est la prolifération de détails, sans vouloir l'interroger. Comment se fait-il que cet animal, cette monture ailée, fabuleuse, dans une des versions en tout cas, a été attaché de crainte qu'au retour, le prophète ne la trouverait pas. Mais celui qui a été capable de lui ramener une première fois, la lui donnerait une seconde fois, si ce n'était nécessaire.
Alors, c'est vrai que le texte du livre de l'échelle Mahomet a été constitué de plusieurs sources. C'est-à-dire que c'est un texte composite.
C'est une compilation.
C'est une compilation de différentes sources, de différents dits, de différentes histoires, qu'on a essayé de rendre homogène en la divisant en 85 chapitres. Ça permettait la meilleure circulation. Mais comme on reprenait une source musulmane, Gabriel, lorsqu'il arrive, donc il frappe la pierre et il attache Burak. Voilà. Peut-être que cette monture céleste, bien qu'elle soit ou qu'elle fût un ange, n'en reste pas une bête. Parce que, et le texte, reprenant la tradition arabe, on dit entre l'âne et la mule, à la fois le côté céleste et le côté terrestre, mais ça reste un animal, une monture. Mais c'est la monture qui a été empruntée par d'autres prophètes qui auraient fait que Dieu a missionné pour tel ou tel voyage, notamment Abraham, Moïse et les autres.
Bien. Alors, durant à la fois la chevauchée, mais surtout l'ascension, le prophète de l'islam va voir des choses, y compris le lieu du séjour des bienheureux. Donc là, on va parler du paradis, on parlera tout à l'heure des cercles infernaux. Qu'est-ce qu'il voit au paradis ? La description est à la fois sensuelle, physique, mais elle est aussi, et là c'est aussi dans l'ouvrage, elle est intellective et imaginative.
Le prophète va voir le paradis avant la fin des temps. C'est-à-dire que, et Gabriel lui dit, Non, c'est pas Gabriel, c'est Rideau, hein, la douane dans les traditions.
Le gardien, le portier, voilà, en quelque sorte, voilà, du paradis.
Et là, même dans les patronymes, on a utilisé les patronymes arabes, Ridoan, qui veut dire l'acceptation, Radwan.
Ou la satisfaction, ou l'agrément. Etc.
Voilà, il lui montre. Et ce mur du paradis, avec ses différentes strates, il le voit ça. Alors, bien sûr, avec les matériaux les plus odorants, le musc, l'ambre, voilà, et les plus chers, or, argent, perles et toutes les pierres précieuses, avec un amoncellement dans les descriptions. Et la visée, c'est de montrer que ce que le prophète voit est inimaginable et qu'il insiste beaucoup là-dessus. Alors, le paradis est-il sensuel ou spirituel ? Il y a les deux visions. Alors, il y a le passage où on rapporte les palais, les fameuses vierges du paradis.
Les houris.
Les houris. On parle aussi de cette oasis céleste. Mais en même temps, la satisfaction des bienheureux, leur véritable prix ou prime, c'est la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, non pas avec les yeux du cœur, mais avec les yeux, cette fois-ci physiques. Si on entend qu'après la résurrection, ils réintègrent leur corps, mais des corps jeunes, des corps qui ont 30 ans.
Oui, on est encore dans moult détails. Chez les mystiques musulmans, cette fois-ci, et je sors du cadre de l'ouvrage, il y a cette idée que la véritable rétribution, et vous l'aviez dit, c'est la vision béatifique où l'on est extasié d'amour devant la munificence de la face divine. Tout cela pose la question dans la description physique, sensuelle, matérielle du paradis. C'est à la fois sa territorialisation, même à l'époque déjà, et qu'est-ce une jouissance éternelle dans le temps? L'homme, par définition, est un éternel insatisfait, à moins qu'il faille réfléchir que cette caractéristique de l'homme de ne pas être, d'être un éternel insatisfait, disparaisse.
Oui. Alors, la visée de ce texte, ou du moins comme tous les récits qui sont destinés, j'allais dire, à un large public médiatisé qui a besoin de savoir ce que sera le paradis. Il fallait leur donner à voir avec les jouissances. Et le mérite du texte du livre de l'Échelle, c'est qu'il montre les deux aspects, que la jouissance éternelle, c'est la vision de Dieu. Et l'on retrouve le côté ou l'aspect que saint Augustin a développé dans la tradition chrétienne pour parler d'un chrétien maghrébin aujourd'hui. Alors, malgré l'anachronisme, on va dire africain plutôt, pour rester dans le temps, la vision de Dieu. Et ça permet de rattacher l'islam à ce côté spirituel, et que le paradis, la récompense ultime, ce ne sont pas ces palais, ce ne sont pas ces richesses terrestres, mais c'est surtout être à côté du Seigneur, à côté de Dieu. Et la temporalité, c'est-à-dire l'éternité, c'est le pardon de Dieu, et de partager avec Dieu la jouissance éternelle de la vision de Dieu, et de vivre, alors je ne sais pas si on peut utiliser le terme, c'est une extrapolation, à côté de Dieu, et être à la dernière sphère, celle qui jouxte la demeure de Dieu.
Oui, d'aucuns disent, là c'est tout le débat entre les deux doctrines, ou les deux thèses, la doctrine de l'unité du témoignage et l'autre, celle de l'unité de l'existence ou de l'être. Parce qu'exister, c'est déjà sortir d'eux. Là, il ne s'agit pas de sortir et on ne sort de nulle part. On est avec Dieu. Et là, dans cette thèse, c'est plutôt la coalescence ou l'anéantissement ou l'implosion ou le fait de fondre en Dieu. Et ce n'est pas être en face ou à côté de Dieu et reconnaître, dans l'unité du témoignage, qu'il y a un tu souverain divin, c'est le Seigneur, et un je humain qui reconnaît cette seigneurie.
Oui, alors là, on retrouve indirectement dans le livre de l'échelle, dans le texte de 1264, dans la traduction, ben, tous ces débats, parce que le livre de l'échelle a subi plusieurs influences. On a parlé du texte coranique, des biographies, mais aussi la trace des mystiques. Et parmi ces grands mystiques, le Cordouan, Ibn Arabi, et qui a travaillé cette question longuement à travers ses textes, et qui lui-même écrit le texte d'un voyage céleste. Hein. Et cette question de la fusion avec l'être suprême, on la retrouve ici. Alors, bien entendu, le texte a aussi un côté, j'allais dire, plaisant, avec une visée récréative. N'oublions pas qu'à l'époque d'Alphonse X le Sage, on a traduit aussi Kalila Idemna, un autre ouvrage, mais une manière de montrer les sagesses du monde islamique et que ce ne sont pas les sarrasins tels que évoqués dans les chansons de gestes. Et c'est là où il y a une évolution dans les perceptions, dans les regards, et que la tradition musulmane a une profondeur que ne renierait pas un chrétien de l'époque.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du livre, le livre de l'échelle Mahomet, c'est comme ça, dans la traduction de Bonaventure de Sienne de 1264, donc un ouvrage du XIIIe siècle, qui, sans anachronisme ou sans parachronisme aucun, s'apparente à un traité d'islamologie médiévale. Et c'est le chercheur Abdelrazak Haloumi qui nous le présente, qui l'a préparé, annoté, travaillé et qui vient nous en parler. Abdelrazak Haloumi est chercheur associé au Centre d'études supérieures la civilisation médiévale à Poitiers, et c'est un homme d'une grande érudition. Vous m'aviez dit en préparant cette émission d'une manière comme ça incidente que vous êtes un fin connaisseur de Chrétien de Troyes aussi, et je tiens à souligner, à rendre hommage à votre savoir et à votre érudition hors pair et de haute volée. Pour cette dernière partie, parlons au moins, nous ne devons pas l'éluder, cette fois-ci le sort des réprouvés. Donc, que leur arrive-t-il? Qu'en est-il de l'enfer? D'une manière antithétique, si la vision, si la rétribution suprême, c'est la vision béatifique où l'on est extasié d'amour, et on est éperdu comme ça dans l'être suprême, par ricochet, ou c'est le fait de s'en éloigner, de ne pas voir Dieu qui est une terrible sanction et un terrible châtiment. Mais il y a aussi des tourments matériels,
oui,
physiques.
Ces tourments, alors le premier tourment, il vient, comment on accède à l'enfer et comment on accède au paradis. On traverse le pont, c'est le pont Sirat, qui veut dire le droit chemin. Mais en même temps, alors vous avez parlé de Chrétien de Troyes, on le retrouve chez Chrétien de Troyes, dans le Lancelot, le pont de l'épée. Et ce Sirat est aussi aiguisé que, voilà, les bienheureux le traversent très 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 vite, et ceux qui sont destinés à l'enfer tombent
déjà, ils sont blessés du fait que c'est aiguisé, et que c'est fin.
Voilà. Et ils tombent dans les sphères de l'enfer, qui sont au nombre de 7. Alors, il y a un classement. Et là, les traducteurs ont repris les classements que l'on va retrouver dans les ouvrages eschatologiques médiévaux, dès le 9e siècle. Et alors, on a les descriptions du paradis, mais on a aussi les descriptions de l'enfer. Sifat al-Jannah et Sifat al-Nar. Et parfois, c'est les mêmes auteurs qui font les deux. Les auteurs vont utiliser des choses et des éléments que l'on trouve dans le texte coranique. Alors, le premier, c'est le vent. Le vent stérile, Rih al-Aqim, le vent stérile, alors, que l'on retrouve dans le texte coranique avec la punition des civilisations anté-islamiques, Aad et Thamoud, donc le fameux épisode du texte coranique. Mais on va retrouver aussi, et là aussi il y a une extrapolation, une exagération, comme dans la partie paradisiaque, dans la partie enfer, c'est les scorpions. C'est les brûlures, c'est le poison, c'est le soufre, c'est la chaleur extrême. Et les punitions, c'est les réprouvés eux-mêmes qui vont chercher le bois à un moment qui leur permettra. Leur corps qui se reconstitue, c'est aussi l'éternité. Alors tout à l'heure, on a vu l'éternité du bienheureux dans la jouissance de la vision de Dieu. Et là, c'est l'absence de la vision de Dieu et les souffrances corporelles. Le livre de l'échelle Mahomet est moins misogyne que ne le sont les traités en langue arabe par rapport aux descriptions des femmes adultérines, des femmes
tentatrices,
etc. Il met presque à égalité les pêcheurs hommes
et les pécheresses.
Et alors, bien sûr, il y a une source arabe ou du moins musulmane de ces récits. Dans la topographie de l'enfer, c'est un enfer situé avec 7 couches avec des portes, et chaque porte permet de voir les punitions et les péchés qui sont commis. Et là, nos traducteurs avaient vraiment fait un travail de recherche, puisque j'ai retrouvé ces termes, ces mots dans les recueils eschatologiques ou dans les ouvrages de commentaires du Coran.
Apocalyptique. Oui, comme le temps s'écoule et c'est fascinant ce que vous nous racontez, et nous essayons de nous mettre un peu dans l'état d'esprit du XIIIe siècle, peut-être que tout cela est une manière de mobiliser, pour ne pas dire instrumentaliser, les peurs et les réjouissances. C'est la fameuse histoire de la promesse et de la menace pour la foi. Mais qu'en est-il d'une foi qui suscite une adhésion par peur du paradis, de l'enfer, et par volonté de jouir des délices paradisiaques?
Alors, Ce texte, alors bien entendu, il y a les antithèses entre l'enfer et le paradis, mais ce texte introduit l'idée d'un purgatoire. C'est-à-dire, on revient à ce fameux pont, Sirat, où sa traversée Ben, il y a certains mettront des jours, des mois, des années, et ils ont le temps de se corriger. Alors, il y a certains qui sont, j'allais dire, impardonnables ou irrécupérables dans cette représentation. Mais n'oublions pas une chose, c'est que ces textes sur lesquels se sont appuyés les traducteurs, ce sont les conteurs publics. Ben, le but, ben, c'est de faire peur. Et ce qu'on appelle les qas, c'est-à-dire les conteurs qui... Alors moi, j'ai utilisé le mot jongleur de part... alors, c'est pas le terme adéquat, mais le but, ben, c'est à la fois de susciter l'effroi et en même temps, ben, d'évoquer quelque chose que personne ne connaît. Et donc, on était dans ces représentations imaginaires. Alors bien entendu, on souffre avec les réprouvés, on jouit avec les bienheureux, etc.
Oui, indépendamment du monothéisme abrahamique, judéo-islamo-chrétien, l'idée d'un séjour pour les bienheureux dans l'au-delà a suscité des spéculations au sens premier du terme, essayer de voir au loin dans d'autres sphères et dans d'autres climats confessionnels ou même philosophiques. N'oublions jamais l'été, le fleuve de l'oubli ou les Champs-Élysées avec les lits d'asphodèles pour les justes et les bienheureux. Là, c'est donc encore une fois pour frapper l'imaginaire, mais qu'en est-il in fine d'un Dieu de tendresse infinie, d'une miséricorde qui dépasse toute chose? Il ne va pas s'accommoder d'une punition éternelle pour ces créatures.
Alors, le texte du livre de l'échelle reste dans cette représentation du XIIIe siècle, on va dire, où c'était binaire. Il y a l'enfer, le paradis, même si on lit dans les interstices du texte, quelque part sur un Dieu bienveillant, j'allais dire miséricordieux, matriciel, si on reprend les traductions les plus étymologiques du mot, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dans le texte du livre de l'échelle, on ne retrouve pas cette idée de ce Dieu. Alors, il exerce le pardon, il exerce son autorité, on le voit au moment de la résurrection, et de toutes les créatures se présentent devant Dieu, y compris les anges, y compris l'enfer lui-même qu'on a personnifié. Et Dieu inspire cette à la fois tendresse, amour et frayeur. Et on retrouve les deux dimensions qu'on trouve dans la tradition islamique.
Alors, cher Abdelazak Haloumi, nous arrivons vraiment au terme de l'émission. Merci, merci bien.
Merci à vous.
Chers amis auditeurs, c'était l'émission Questions d'Islam. Vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture. Vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Dofal Gelid. Et la réalisation est assurée par l'ami François Connac.